Radio Kapi.
Ça crépite encore dans le territoire de Rutshuru. Le groupe terroriste M23 ne désarme toujours pas et les FRDC tiennent mordicus à l'intégrité du territoire. Un nouveau commandant général de brigade, Bitangalo, prend temporairement la tête du secteur opérationnel Sokola 2. Tout ceci, c'est au lendemain de la mise en place d'une feuille de route depuis Luanda, laquelle suscite des réactions que vous suivrez dans ce journal. Mission non accomplie par 3 directeurs d'école primaire chargés de ramener à Kalehe dans le sud Kivu les salaires de leurs enseignants. 5 millions de francs congolais comme enveloppe salariale en leur possession sont entre les mains d'hommes armés qui les ont braqués mardi à 17h sur leur chemin de retour de Bukavu. Joseph Inganji, chef de bureau de la coordination de l'aide humanitaire OCHA, est l'invité que nous recevons en fin de cette édition. C'est pour parler de la situation humanitaire sur l'ensemble de la province du Nord Kivu qui, dit-il, est préoccupante. Fidèles auditeurs, merci de la confiance et l'attention que vous nous accordez pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Billy Ivan Lutumba à la présentation de ce journal. En territoire de Rutshuru, les combats ont repris depuis 7h30 ce jeudi entre les FRDC et les rebelles du M23 dans le village Kanyabusoro. C'est à environ 18 km du camp militaire de Rumangabo, en groupement Kisigari. L'autorité coutumière dans la région affirme que les affrontements se poursuivent et la population qui était encore présente dans le milieu se déplace et se dirige vers Kalengera, Biruma et Rumangabo. D'autre part, les rebelles du M23 ont également attaqué vers 6h du matin à Rwanguba, en groupement de Djomba, pour tenter de pénétrer à Rutshuru, mais ils ont été repoussés par les FRDC, affirment nos sources. FRDC, au sein de laquelle le général Bitangalo Boulimé Clément est nommé commandant ad intérim du secteur opérationnel Sokola 2 au Nord Kivu. C'est en remplacement du général-major Chirimwa Minkuba Peter. Ce dernier prend le commandement ad intérim de la 32e région militaire en Ituri. Par la même décision, le lieutenant-général Yav Irong Filemov, commandant 3e zone de défense, est désigné pour conduire ces opérations, tandis que le lieutenant-général Ndima Konga Constant, gouverneur militaire du Nord Kivu, va se concentrer sur la gestion administrative et politique de la province. Parlons à présent de toutes ces réactions après la tripartite de Luanda. La feuille de route de Luanda constitue un acte de trahison de capitulation de la RDC au détriment des victimes congolaises. C'est ce qu'a affirmé ce matin à Radio Okapi le député national Jean-Baptiste Moïndo Kasekwa de la Mouka. Il déplore le fait que cette feuille de route demande à la RDC de réunir les conditions pour un dialogue. Autrement dit, la feuille l'amorce du dialogue avec le M23 conformément au communiqué de Nairobi. Cet élu du Nord Kivu déplore par ailleurs que cette feuille de route exige à la RDC de travailler à l'anéantissement des FDLR et que cela est la condition pour se rassurer de la fin complète des causes des conflits. Jean-Baptiste Moïndo.
Il est dit qu'à cette feuille de route, que le M23 doit cesser immédiatement les hostilités et se retirer des positions qu'il occupe conformément au communiqué final de Nairobi. Et donc ce n'est plus un groupe terroriste, il est autorisé à rester sur le sol congolais et bénéficier d'un dialogue. Le Rwanda conditionne la cessation des guerres d'agression par l'anéantissement des FDLR, alors que dans le passé, la MONUSCO a rapatrié des combattants FDLR au Rwanda et ces gens-là ont été retrouvés à nouveau dans les rangs de M23 recyclés par le Rwanda. Bref, Félix est allé à Luanda pour capituler devant ce bourreau. Nous allons continuer à nous battre pour que les rapports mapping ne restent pas une lettre morte.
En réaction, le député national de l'UDPS, Augustin Mulumba, estime que cette feuille de route s'inscrit dans le cadre des efforts fournis par le chef de l'État pour apporter la paix dans l'est du pays. Le président de la commission politico-administrative et judiciaire affirme que cette feuille de route ne représente aucun danger pour la RDC, car les FDLR ne sont plus une menace pour le Rwanda. Il invite donc ses collègues à faire preuve de bonne foi afin de soutenir le chef de l'État dans cette démarche pour le bien du pays. Augustin Mulumba est au micro de Michel Kifindangoy.
Aujourd'hui, Paul Kagame a accepté que c'est lui-même qui a financé le Rwanda, qui finance toutes les rébellions qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Mais lorsque le chef de l'État, qui a manifesté sa volonté de pouvoir ramener la paix dans cette partie en proie pendant plus de 20 ans, et qu'il y a des gens qui sont en train de critiquer, qui disent que c'est un acte de haute trahison, moi je me dis que c'est manquer tout simplement quoi dire. Le chef de l'État milite pour la paix. Je ne vois pas pourquoi on peut appeler ça acte de trahison. Ça, c'est pouvoir désorienter l'opinion publique pour s'attirer l'électorat. C'est décevant de leur part. Les deux pays se sont engagés à rapatrier les réfugiés. Oui, mais est-ce que nous avons des réfugiés là qui sont militaires au Rwanda? Les M23 élèves du Rwanda, ce sont des militaires rwandais qui viennent prendre l'FDLR, qui ne constituent même pas une menace pour le Rwanda. Parce que pour le moment, l'FDLR ne constitue pas une menace pour le Rwanda.
Autre chose à présent, dans le Sud Kivu, territoire de Kalehe, les salaires d'une vingtaine d'enseignants des trois écoles primaires de Bitale emportés par des bandits. Ces hommes armés ont arraché toute l'enveloppe salariale des mains des directeurs d'école qui rentraient à Kalehe en provenance de Bukavu. Cela s'est passé dans la soirée de mardi 5 juillet. Diane Luende nous relate les faits.
C'est environ 5 millions de francs congolais pour la paye de 21 enseignants de l'épée Beroya, épée Mabingu et épée Boubaré qui sont emportés par le bandit. Cette somme venait d'être retirée à la Caritas Bukavu par les trois directeurs d'école. Alors qu'ils étaient à moto, ils sont tombés entre les mains des ravisseurs le mardi soir aux environs de 17h. Le malfrat était muni de 5 armes et une machette à l'endroit d'Inera, en chefferie des Boulo-O. Monsieur Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile de Calais.
Les directeurs de l'EPE Beroya, Mabingu et Boubare, dans le groupement de Bitale, chefferie de Boulot, en provenance de Bukavu avec le salaire de leurs enseignants, ont été braqués avec leurs trois motards par les mêmes malfrats et les salaires des enseignants emportés par les assaillants.
Notre source indique que les directeurs d'école affirment reconnaître les identités de leurs bourreaux qui doivent être les jeunes des localités voisines. Jusque-là, aucune réaction des autorités scolaires provinciales. Bukavu, Diane Luende Kitoko, Radio Kapi.
Plus au centre du pays, meurtre hier mercredi dans le territoire de Katanda de l'inspecteur provincial du travail de la province de Lomami. Il a été tué par un agent de police du groupe d'intervention mobile Gemi. L'infortuné quittait Kabinda hier matin pour Mweneditu afin de participer à une formation quand le drame est survenu. Le récit des faits avec Esther Ndalafina.
Les sources sur place affirment que le défunt a quitté la ville de Kabinda le matin par motocyclette pour se rendre à Mweneditu où il devait prendre part à une formation. À Katanda, près de 60 km de Mbujimayi, après avoir franchi 8 barrières de sécurité érigées dans cette localité, le défunt a été bloqué à la barrière Mwembia où l'on exigeait 1000 francs congolais au passant. Après une résistance, l'inspecteur a enfin remis cette somme aux policiers. La même source affirme que les policiers lui ont tenu des propos discourtois. S'en est suivi une courte dispute. C'est ainsi qu'un policier lui a logé une balle dans la poitrine devant le motocycliste qui les transportait. Son corps a été acheminé à Kabinda pour l'inhumation. Cette situation n'a pas été digérée par les étudiants de l'université Notre-Dame de Lomami car le défunt y travaillait comme chef de travaux à la faculté des droits. Les étudiants ont paralysé ce matin toutes les activités à travers des chansons et des cris de colère. Selon plusieurs sources, la problématique de la sécurité devient préoccupante dans la province. Dans la nuit de mardi à hier mercredi, quelques militaires ont tiré plusieurs coups de feu, semant ainsi la panique dans la cité de Lukalaba à plus ou moins 60 km de Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'actualité nous amène dans la province du Congo central où les cas de vindicte populaire sont de plus en plus signalés dans le territoire de Lukula. Cette nuit, dans le village Mbatakambala, dans le secteur de Kakongo, la population a démoli la maison d'un monsieur soupçonné d'avoir tué sa sœur de manière mystérieuse. Le commandant territorial de la police de Lukula qui donne cette information indique qu'à cause du manque de moyens logistiques et du déficit d'éléments, son commissariat est dépassé par cette récurrence de cas de vindicte populaire. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Le territoire de Lukula est devenu un bastion de la justice populaire, à en croire les commandants territoriaux de la police de cette entité. Le dernier cas en date est survenu cette nuit au village Mbatakalamba dans le secteur de Kakongo. Taxé de sorcier dans sa famille et soupçonné d'avoir tuer sa sœur, M. Roger Nditatembo et ses enfants sont en cavale. À la demande des enfants de sa défunte sœur, la population s'est faite justice en détruisant la maison de ses présumés sorciers. Selon le colonel Munga Malasi, commandant de la police du territoire de Lukula, plus de 7 personnes ont été victimes de la justice populaire depuis le début de cette année. Le 20 juin dernier, un jeune homme a été brûlé vif au village Mbatambenge pour une affaire de vol de motos. Le 13 janvier, dans l'agglomération de Mwenge, trois présumés voleurs de motos ont aussi été immolés par la population. Le colonel Mongamalasi, qui condamne fermement ces comportements barbares, invite la population à faire confiance à la justice publique tout en mettant en garde toute personne qui tentera de se faire justice. Il sollicite de sa hiérarchie un appui en effectif et en logistique pour contrer l'ampleur de ces phénomènes. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la deuxième revue du programme économique. L'exécution du budget de l'État au 30 juin 2022 est relativement satisfaisante dans un contexte de fragilité marqué au niveau international par la guerre russo-ukrainienne et au niveau domestique par la guerre à l'est du pays. C'est ce qui ressort de la conférence de presse conjointement tenue par le ministre des Finances, celui du budget, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et le représentant résident du FMI. C'était à l'occasion de la conclusion de la deuxième revue du programme économique du gouvernement soutenu par le FMI. Plus de détails avec Paul Matendo.
Parlant de finances publiques, Nicolas Kazadi note la performance concernant la mobilisation des recettes domestiques occasionnées, selon lui, notamment par l'embellie des cours des produits miniers et la poursuite des efforts du gouvernement pour la mobilisation des recettes publiques. Aussi, l'amélioration de la qualité de la dépense publique en recourant davantage aux procédures standards de la chaîne de la dépense publique tout en réduisant les niveaux des dépenses d'urgence. Pour sa part, le ministre du budget, Aimé Bougie, reconnaît que la clôture de la deuxième revue du programme économique du gouvernement connaît également des retombées significatives. C'est d'abord le décaissement immédiat de 225 millions de dollars américains qui vont conforter les réserves de la Banque centrale du Congo. Ensuite, l'accélération de l'utilisation du droit de tirage spécial DTS avec un décaissement supplémentaire de 211 millions de dollars américains en faveur du programme de développement des 145 territoires. Au sujet du secteur monétaire, la poursuite de la stabilité du taux de change reste le fruit de la coordination des actions menées par le gouvernement et la BCC dans la conduite de la politique budgétaire et de la politique monétaire, a conclu Mme Malangu Kabedi, gouverneure de la BCC.
Dans la province de l'Ituri, les prix de certains produits de première nécessité ont baissé sur les marchés à Kilo Eta et au centre commercial de Mongwalu. Nous sommes dans le territoire Djougou. Les autorités locales justifient cette situation par la réhabilitation de la route Iga-Barrière-Kilo, l'absence des pluies, mais également par la réduction des violences sur ce tronçon depuis la signature de l'acte d'engagement unilatéral par la milice de la Codeco URDPC, ce qui permet aux engins roulants de circuler sur cet axe sans trop de difficultés pour ravitailler ces entités en diverses marchandises. Jean-Claude Lokidile.
C'est depuis quelques semaines que le trafic est fluide sur cette route. Conséquence, dans la cité minière de Mongwalu, par exemple, le sac de riz de 25 kg qui s'est vendé il y a peu de temps à 70 voire 75 000 francs congolais revient actuellement à moins de 55 000 francs congolais. Une mesure des haricots de 10 kg se négocie entre 20 et 25 000 francs congolais au lieu de 55 000 francs. Une bouteille de bière Premium qui coûtait 8 000 francs congolais s'achète aujourd'hui à 4 000 francs. Le bourgmestre de la commune de Mongwalu s'en félicite pour ses administrés. Jean-Pierre Bikisende.
Effectivement, des kilos jusqu'à Mongwalu, les gros camions là passent par jour 10, 15, 20 camions, alors ça fait que ça nous ravitaille à Mongwalu.
De l'autre côté, les autorités du secteur de Banyalikilo précisent que certains marchands hésitent encore à emprunter ce tronçon où la sécurité n'est pas encore totalement rétablie. Innocent Kadala, le chef de cette entité, estime cependant que si cette accalmie perdure, il y a lieu d'espérer dans les prochains jours la reprise totale des activités économiques dans la région.
La première phase a permis à ce que les voitures reprennent la fréquentation comme auparavant. Nous espérons bien la semaine que nous commençons ici peut avoir des retombées significatives.
Signalons que la même tendance s'observe également à Bounia où de nouvelles maisons de commerce ouvrent presque chaque jour et où plusieurs immeubles sont en train d'être construits. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Dans la province du Maniema, le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala a lancé officiellement le mercredi 6 juillet le dispositif opérationnel de mise en œuvre du programme de 145 territoires pour le Maniema. C'était dans la salle de fête de l'hôtel Espace S au cours d'un atelier de sensibilisation et d'appropriation de ce projet. Ont pris part à cet atelier les membres de l'exécutif provincial, les chefs d'entités territoriales décentralisées et déconcentrées, les députés nationaux et provinciaux du Maniema ainsi que les membres de la société civile. Florence Kizalunga a pris part à cet atelier, voici son reportage.
Selon le représentant de PNID, agence d'exécution, ce projet qui sera mis en route sur 4 composantes, une fois exécuté, favorisera le développement local et la convergence rapide de revenus et des conditions de vie entre le milieu rural et urbain. Jean Amissi.
Le PDL aura des effets tangibles et immédiats sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales dans les zones reculées, le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire, l'accès des jeunes et des femmes aux activités génératrices de revenus et la réduction des vulnérabilités des populations rurales.
L'autorité provinciale, en plus de remerciements, exhorte la population à s'approprier ces programmes. Afan Idrissa.
C'est un programme qui appartient au peuple. Par conséquent, je charge les participants à cette cérémonie de sensibiliser tous nos citoyens se trouvant dans leur localité respective, non seulement à bien accueillir et accompagner les programmes, mais aussi et surtout à être l'œil de l'ensemble de la communauté en exerçant un contrôle citoyen sur l'ensemble du processus.
Signalons que pour le maniement, ces programmes prévoient un budget de plus de 70 millions de dollars américains. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le prix des carburants a grimpé en flèche en Éthiopie mercredi après que le gouvernement a réduit les subventions, aggravant ainsi les difficultés économiques des personnes déjà confrontées à une forte inflation. Des longues files d'attente se sont formées dans les stations-service de la capitale Addis Abeba, les conducteurs faisant état des pénuries en essayant de faire le plein. Le prix de l'essence à la pompe a augmenté de près de 30% pour atteindre 88,83 birr, environ 94 cents dollars, tandis que le diesel a augmenté de près de 40% pour atteindre 49,02 birr dans le cadre du nouveau régime de prix qui s'appliquera jusqu'au 6 août, a déclaré le ministère du Commerce.
L'invité.
La situation humanitaire sur l'ensemble de la province du Nord Kivu est préoccupante, déplore le chef de bureau de la coordination de l'aide humanitaire au Tchad. Dans cette interview exclusive à Radio Okapi, Joseph Inganji brosse la situation des déplacés et les défis auxquels fait face la communauté humanitaire. Il s'entretient avec Denise Lukeso.
Monsieur Joseph Inganji, bonjour.
Bonjour.
Comment se présente la situation des déplacés sur l'ensemble du territoire du Nord Kivu?
La situation des déplacés au Nord Kivu est préoccupante. Nous avons un grand nombre de personnes déplacées. Selon notre statistique, nous avons plus de 1,6 million de personnes déplacées. Les chiffres aussi continuent à augmenter. Il faut noter que le combat qui continue maintenant dans le territoire de Rutshuru a augmenté le nombre de personnes déplacées dans la province. Depuis mars cette année jusqu'à aujourd'hui, nous avons autour de 170 000 personnes déplacées.
Vous parlez aujourd'hui de 170 000 déplacés en provenance de Rutshuru. Dans quelles conditions vivent-ils et ils sont installés où?
Et cette personne déplacée vivent dans conditions très préoccupantes. Dans les églises, nous-mêmes à Kiwanja, nous avons aussi un autre grand nombre important de personnes déplacées à Kanyaruchinya, dans les écoles, dans les églises, où ils ont besoin de toute l'assistance multisectorielle.
Que prévoient les humanitaires quant à ceux?
Ce que nous, les humanitaires, voulons d'abord, voir que tout le monde retourne chez eux pour être capable de continuer de leur vie quotidienne. Mais en attendant ça arrive, nous, la communauté humanitaire, nous sommes capables de donner première nécessité pour assurer que nous sommes capables de sauver la vie et soulager les souffrances des personnes déplacées. Parmi leurs priorités, c'est abri, vivre, non vivre. Nous avons aussi eau et assainissement. Nous avons santé, entre autres.
Et à quand cette assistance alors que les personnes en ont urgemment besoin?
Oui, on a déjà commencé l'assistance. Il y a les distributions de vivres déjà en cours. Nous sommes en train de voir combien de personnes ont besoin d'assistance et quel type d'assistance. Pour Rutshuru, on a déjà commencé avec nos partenaires pour donner l'assistance, ce qui inclut abri, vivre. Nous avons aussi assistance communautaire. Mais je voulais informer que cette nouvelle crise où il y a besoin d'un grand nombre de personnes déplacées arrive à un moment où le financement pour la RDC a baissé. Le plan de réponse pour la RDC est financé seulement à 20%. Et cette plan demande 1,8 milliard de dollars. Imaginez-vous, 20% de 1,8 milliard de dollars, c'est difficile. Notez que ce n'est pas seulement Rutshuru. Nous avons Masisi, Walikale, mais aussi d'autres provinces, Ituri. Tous ont besoin d'assistance. Avec 20%, c'est vraiment difficile. C'est pour cela que j'ai saisi cette occasion pour remercier nos bailleurs et défauts pour tout ce qu'ils ont nous donné, mais aussi rappeler tout le monde que nous avons besoin de financements additionnels pour être capables de bien répondre aux besoins des personnes déplacées.
Dans plusieurs publications de OCHA, la communauté humanitaire évoquait l'accès difficile. Comment vous faites pour accéder à ces personnes nécessiteuses?
Nous, OCHA, nous avons résolution de l'Assemblée générale 46/182 qui nous demande d'assurer les négociations de l'accès. Nous demandons à qui de droit de donner l'accès aux humanitaires sans condition.
Terminons avec d'autres défis auxquels vous faites face aujourd'hui.
La population, surtout la population déplacée, ils nous remercient beaucoup lorsque on leur donne l'assistance. Mais ils nous rappellent que leur priorité numéro un, c'est la paix, c'est la protection, la sécurité, pour qu'ils retournent chez eux, pour continuer avec leur vie quotidienne. Et c'est pour cela, nous appelons à qui de droit tout le monde, de faire tous pour assurer que les personnes déplacées, leurs souhaits est pris en compte.
Monsieur Joseph Ingandji, je rappelle que vous êtes le chef de bureau de OCHA RDC. Radio Kapi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Fidèles auditeurs, voilà comment se referme ce journal sur Radio Kapi. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, nous vous disons sincèrement merci de l'avoir écouté.